Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un ouvrage, un essai, au titre qui pourrait vous sembler quelque peu provocateur. Il s'intitule « Une Bible peut en cacher une autre. Le conflit des récits » en sous-titre. Il a été publié aux éditions Bayard en 2021 par deux auteurs, Thomas Romer et Frédéric Boyer, que je vous présente tout de suite. Thomas Romer, professeur au Collège de France, occupe la chaire « Milieu biblique ». Sa leçon inaugurale portait pour titre « Les cornes de Moïse, faire entrer la Bible dans l'histoire ». Ses travaux de recherche portent sur la naissance de la Bible dans le contexte du monde antique. Et dans une perspective d'histoire des religions, son approche se caractérise par une analyse philologique et littéraire des textes qu'il place en dialogue avec l'histoire et l'archéologie du Proche-Orient ancien. Cette approche permet de faire ressortir la fonction des textes dans leur milieu d'origine, répondant ainsi tout à la fois à des problématiques identitaires, culturelles, sociales et bien sûr politiques. C'est ainsi qu'il a pu proposer de nouvelles synthèses historiques, notamment sur la formation du Pentateuque, de l'historiographie biblique ou encore sur les origines du Dieu et de ses cultes dans les anciens royaumes d'Israël et de Juda. Voilà donc Thomas Romer. Frédéric Boyer, qui est présentement le directeur des éditions POL, mais qui est aussi l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, des romans, des poèmes, des essais et des traductions, a, entre autres, coordonné une nouvelle traduction de la Bible, il y a déjà quelques 20 ans de cela, en 2001, toujours chez Bayard, en collaboration avec des spécialistes des textes anciens et de la langue biblique, mais également avec des écrivains. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur cet ouvrage tout à fait intéressant, surtout lorsqu'on est un tant soit peu hébraïsant et que l'on peut évidemment comparer et avoir le texte biblique sous les yeux. Il a proposé, il y a de cela 2 ou 3 ans, une nouvelle traduction des Confessions de Saint-Augustin, qu'il a intitulée « Les aveux ». Il a traduit des sonnets de Shakespeare, ainsi que la pièce Richard II, les Géorgiques de Virgile, et j'en passe, et de beaucoup. Alors, dans l'ouvrage dont il va être question aujourd'hui, « Une Bible peut en cacher une autre », question de savoir comment les textes de la Torah ont-ils été organisés? Pourquoi? Dans quelle intention? Nos deux complices, Thomas Romer et Frédéric Boyer, s'interrogent, confrontent leurs analyses, leurs idées, et montrent que de cette organisation dépend le sens que l'on veut donner à la promesse, avec un grand P, à la terre, à la conquête, toutes sortes de thématiques qui résonnent fortement dans les événements du monde contemporain. Et on va commencer tout de suite, parce que je vais vous en livrer évidemment la lecture de plusieurs extraits. On va commencer par la création du monde. Premier chapitre de la Genèse qui raconte cette création par un Dieu souverain et par sa parole. Une création donc plutôt harmonieuse, une création sans drame, sans véritable combat, comme on peut en lire des combats, justement, dans les textes mésopotamiens de la création, qui auront inspiré, dans une certaine mesure, les rédacteurs de la Bible. C'est ce que l'on retient, ordinairement, l'image que l'on conserve dans ces récits. Car, ajoutent Thomas Romer et Frédéric Boyer, la divinité biblique n'a pour seule arme, en quelque sorte, que la parole, le pouvoir de nommer les éléments. Et finalement, semble nous expliquer ce premier récit, nous avons les mots pour faire le monde. Nommer, c'est créer. Et surtout, c'est habiter un monde commun, le repérer, l'ordonner, le reconnaître ensemble. Mais ce faisant, on oublie un peu trop vite le paradoxe d'une première création des êtres humains. À l'image de Dieu, dit le texte, hommes et femmes, Genèse 1, suivi d'un deuxième récit, Genèse 2, et qui vient mettre un certain désordre dans la représentation de la création. Il fallait donc un nouveau récit de création de l'humanité, humanité Adam, et pouvoir raconter la création seconde de la femme. L'un et l'autre récit donnent donc une version quelque peu différente de cette création et de ses conséquences. Genèse 1 raconte que le premier exemplaire de l'humanité, cet Adam, est fait à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, homme et femme. Ce que le deuxième récit ne confirme pas du tout. Placé à la suite de ce premier texte, il donne une autre version de la création de l'humanité, un Adam seul, sans précision d'ailleurs de genre ou de sexe, suivi dans d'étranges circonstances de la création de qui vous savez, bien sûr, de Ève. D'un récit à l'autre, la désignation du Dieu, son identité, se complexifie. On aura donc compilé différentes traditions de nomination de la divinité. Au commencement, pluralité divine, divin pluriel, en Genèse 1, 26 encore, faisons un Adam à notre image. On pourrait aussi traduire faisons une humanité à notre image. Une humanité mâle et femelle à l'image de la divinité. Comment expliquer que la divinité s'exprime ici pour la première fois au pluriel? Et cela peut-il signifier que la divinité elle-même soit mâle et femelle? Autant de questions, bien sûr, qui restent ouvertes. Au chapitre 2, le tétragramme Elohim crée bien toujours un Adam, mais sans distinction mâle et femelle, une sorte de créature androgyne, diront même les rabbins. Or, ce que nous retiendrons massivement, ce n'est pas ce premier récit de création de l'humanité, mais Genèse 2 et 3, dans lesquels cet Adam indifférencié se dédouble en homme et en femme. D'ailleurs, l'histoire de l'art s'attachera de préférence à Genèse 1 pour représenter la création du monde, le ciel, la terre, les astres, la mer, les animaux, les plantes, et prendra plutôt comme modèle de la création humaine la représentation de l'homme et de la femme en Genèse 2 et 3. On comprend que ces deux récits tentent de dire chacun différemment quelque chose d'important sur l'humanité, qu'elle est une et double, qu'elle dépend de la création et qu'elle est aussi la gardienne, qu'on peut la voir au centre de la création, avec la mission de dominer, mais aussi comme créature dépendante de l'ensemble de cette création, et dont la condition même est soumise à la création, enfantement, mortalité. Ce sont deux vérités que nous devons avoir à l'esprit pour nous comprendre. Et ce sont comme deux récits de nous-mêmes, finalement. Voilà donc un extrait du premier chapitre qui s'intitule « Les cicatrices de la création ». Alors je vais passer à un autre motif, un autre chapitre, qui s'intitule « La fabrique plurielle d'Abraham ». Jusqu'à Abraham, nous disent nos deux auteurs, Thomas Romer et Frédéric Boyer, les personnages bibliques étaient davantage des archétypes, parfois indéfinis, comme le Adam, l'être humain, ou identifiés à une seule fonction, tel Noé, le juste, par exemple. Même si, en conclusion de l'épisode du déluge et du sauvetage de l'humanité, via ses trois fils intervient un très bref drame plus personnel, l'ivresse et la nudité de Noé devant ses fils, comme si on avait là une toute petite amorce d'histoire familiale. La création d'Abraham s'inscrit malgré tout dans une pensée de généalogie. La table des nations en Genèse 10, les fameuses toldot, les générations, les engendrements, comme on en lit parfois traduction, reproduit le registre des descendances de trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Sem donnera la lignée des Sémites qui débouche sur Terach, le père d'Abraham. Le texte dit « sacerdotal » produit donc un lien généalogique avec l'histoire des commencements qui précèdent. Et si avec Abraham commence l'histoire d'un individu, cette histoire n'est pas forcément biographique. On ne raconte rien de sa jeunesse dans la Bible, hein, j'entends. Comme c'est le cas pour Moïse, bien qu'on raconte la naissance de ce dernier d'une manière détaillée, contrairement à celle d'Abraham. Comme si l'enjeu du récit biblique ici était davantage le parcours, l'aventure du personnage que les détails de son existence ou de sa personnalité. Et si, en effet, le récit se resserre bien sur un individu, généalogiquement, il demeure large. Car Abraham n'est pas seulement le père d'Isaac, c'est aussi et d'abord le père d'Ismaël. Et, détail que l'on oublie souvent, après la mort de sa femme Sarah, en Genèse 23, on parle d'autres femmes d'Abraham, en Genèse 25, verset 6, dont la fameuse Keturah, décrite dans le livre des Chroniques comme la concubine d'Abraham, premier livre des Chroniques, chapitre 1, verset 32, et qui lui donnera toute une descendance de tribus arabes qui peuplent la route de l'encens. Keturah, Ketoret en hébreu, signifie encens. Du coup, Abraham n'est pas seulement le père d'Isaac, mais c'est une figure beaucoup plus ample. Il y aura ensuite Ésaü et Jacob, fils d'Isaac, et ce n'est qu'avec Jacob qu'apparaîtra Israël. Jacob doit d'ailleurs, comme Abraham, changer de nom pour devenir Israël. Le récit donc progresse par étapes, par des resserrements progressifs jusqu'à Jacob et les 12 tribus. Avec Abraham, dont le Hey va s'introduire au milieu du nom, le Hey divin, diront certains commentateurs, au moment de l'alliance contractée en Genèse 17 entre Dieu et Abraham. Donc avec Abraham, on est un peu à mi-chemin entre toute l'humanité et une partie de cette humanité elle-même plus large que ce que deviendra Israël. Et c'est avec Moïse que le récit généalogique s'estompe, en suivant les livres bibliques de l'Exode au Deutéronome, il y a bien une généalogie de Moïse et Aaron qui nous est donnée en Exode 6, mais elle est tronquée, interrompue. Moïse n'est pas un ancêtre dans le récit biblique comme l'est Abraham. Moïse a des fils, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Son successeur, Josué, et Yoshua, n'a aucun lien de parenté avec lui. On est sur un autre plan identitaire. Avec Abraham est constitué un groupe beaucoup plus large, allant de différentes tribus arabes jusqu'aux Édomites avec Isaac. Et c'est seulement avec Jacob que le récit se resserre sur Israël. Le passage que vous venez d'entendre est en fait le début du psaume 23, interprété par quelqu'un qui fut grand chazan à la synagogue de la Victoire, M. Adolphe Atiya. Et la musique est la musique de la Bible révélée, reconstituée par Suzanne Haïk Ventura. Nous reprenons donc notre voyage dans cette Bible qui peut en cacher une autre de nos deux auteurs, que sont Thomas Romer et Frédéric Boyer. Dans un autre chapitre, qui suit bien évidemment la création du monde et l'histoire d'Abraham, nous arrivons à l'Exode, qu'ils intitulent « L'Exode, une épopée paradoxale ». Et comme nous venons de parler d'Abraham, eh bien, nous sautons directement à Moïse. Moïse qui acquiert une dimension particulière dans la Torah, dans le Pentateuque, et qui, comme je le disais il y a quelques minutes, est revêtu d'une sorte d'épaisseur biographique et épique qu'on ne trouve pas chez Abraham. On pourrait presque lire le Pentateuque comme la biographie de Moïse. Moïse va naître au début du livre de l'Exode, donc du second livre, meurt au dernier chapitre du Deutéronome, le dernier livre du Pentateuque. À l'exception de la Genèse, tous les autres livres de la Torah sont placés sous le signe de Moïse, qui structure en quelque sorte cet ensemble narratif. En relevant dans les textes les indications chronologiques, on peut établir que cette histoire dure 120 ans, puisque Moïse, selon Deutéronome 34, meurt à cet âge. Les premiers 40 ans sont mystérieux. On ne sait rien sur les débuts de Moïse, un peu comme pour Jésus. Le texte semble construit sur trois générations, Moïse en Égypte, Moïse adulte avec la première génération de l'Exode d'abord, puis Moïse avec la deuxième génération, les enfants de celles et ceux ayant quitté l'Égypte. Sachant qu'une génération dans la Bible, c'est 40 ans. C'est aussi après 40 ans dans le désert que la première génération mourra. Moïse l'Hébreu, de la maison de Lévi, nous dit Exode chapitre 2. Moïse l'Hébreu naît d'une femme hébraïque mais est adopté par une princesse égyptienne. Même si rien n'est dit de cette enfance, Moïse acquiert une double culture, une double origine. Le texte reprend après une longue ellipse par ces mots. Moïse avait grandi, il sortit vers ses frères et vit leur corvée. Les Hébreux sont donc astreints à des tâches difficiles, des corvées, deviennent des esclaves. Mais il ne faut pas imaginer des esclaves comme ceux du XVIe ou du XVIIe siècle. Il s'agit de corvéables, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés sans doute dans des colonies où ils jouissaient d'une certaine liberté. Et pourtant, chez le roi d'Égypte et ses conseillers, va naître une angoisse fantasmée, on dirait aujourd'hui. Je cite Exode chapitre 1, « Ces étrangers deviennent trop puissants, ils vont nous faire la guerre, il faut donc les réduire, on va donc alourdir les travaux des esclaves pour les faire mourir plus vite. » Fin de citation. Mais ça ne marche pas. D'où cette idée qui prépare en quelque sorte la naissance de Moïse de tuer tous les nouveau-nés mâles. Encore le texte, « Plus on les afflige, plus ils se multiplient. » Fin de citation, ce qui justifie la première histoire, celle des sages-femmes. Recitation, le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua, « Quand vous accouchez des femmes des Hébreux, regardez aux deux pierres, si c'est un fils, qu'il meure, si c'est une fille, qu'elle vive. » Exode 1, verset 15-16. Les sages-femmes, bien qu'une certaine tradition juive dise qu'il s'agissait des femmes hébraïques, sont clairement des égyptiennes. Cette histoire relève du conte de fées, parce qu'il y a deux sages-femmes chargées de s'occuper de toutes les naissances des femmes hébraïques. Or, ces sages-femmes, par la ruse, s'opposent au pharaon. Ces sages-femmes dont on dit, et c'est la première fois dans la Bible, qu'elles ont la crainte de Dieu, Yirat Hashem, Exode 1, 21, eh bien ces deux femmes trouvent une ruse pour laisser vivre les nouveau-nés mâles en disant que les femmes des Hébreux accouchent avant qu'elles n'arrivent. On peut même y voir un jeu de mots. Selon les sages-femmes, les femmes hébraïques sont des chayot, ce qui signifie des bêtes, des animaux. Autrement dit, elles n'ont pas besoin qu'on les accompagne pour accoucher. Mais ce mot contient la racine de vie, de la force vivante. Et ce sont des vivantes qui donnent la vie. Toujours est-il qu'elles font croire au pharaon que sa stratégie ne fonctionne pas. Ce sont donc des égyptiennes qui ont la crainte de Dieu. Les sages-femmes seront d'ailleurs récompensées par Dieu qui va leur faire du bien et faire prospérer leur famille, toujours en Exode 1, verset 20. Le récit du buisson ardent, bien connu, est la seule histoire dans toute la Bible où l'on trouve une réflexion théologique sur le nom de Dieu, ce fameux tétragramme. Car des dieux, il y en a partout. Moïse demande donc à la divinité qui lui apparaît dans le feu, à qui ai-je affaire ? Enfin, pas exactement en ces termes. Et puis vient le fameux « Je suis qui je suis » ou « Je serai qui je serai » Exode 3,14, chapitre 3, verset 14, affirmation qu'on a pu comprendre parfois comme une sorte de refus de se révéler, de se nommer précisément. Et on a pu donc établir un lien entre le verbe « être » et le nom divin, hein, le fameux « Yud-He-Vav-He », le fameux tétragramme, bien que cela ne corresponde pas à l'étymologie réelle, mais souvent on cherche des étymologies qui produisent du sens. D'abord, Moïse refuse d'être celui qui va aller sauver son peuple des mains de Pharaon. Il ne se sent pas capable. Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Ce « je serai » prépare le « je serai qui je serai ». Et on a donc tout un jeu sur le nom de ce Dieu qui est avec Moïse et finalement qui est le Dieu qui accompagne, le Dieu qui est présent. Si on regarde en détail ce que Dieu, tétragramme, annonce à Moïse au buisson ardent. Je reprends le texte biblique. « J'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte, dit Dieu. Je connais ses souffrances. C'est pourquoi je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu où sont le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périsite, le Hiwite et le Jébusite. » Chapitre 3 de l'Exode, versets 7 et 8. L'énumération de ces peuples, qu'on ne sait pas très bien identifier, peut préparer le livre de Josué dans lequel on retrouvera les mêmes peuples. Les deux auteurs du livre, donc toujours Thomas Romer et Frédéric Boyer, ajoutent que beaucoup disent que ce passage-là ne fait pas partie de la tradition la plus ancienne de la sortie d'Égypte. On pourrait même imaginer une tradition narrative qui n'aboutirait pas à une sortie définitive d'Égypte. Le grand récit de la négociation et de la compétition entre Moïse et Aaron d'un côté et Pharaon de l'autre laisse place à deux hypothèses. Une sortie définitive ou de simples excursions en un lieu particulier pour faire un pèlerinage pour un dieu irascible et jaloux. Moïse et Aaron négocient avec le pharaon pour laisser partir le peuple. C'est alors la succession des différentes plaies. Au début, les magiciens égyptiens peuvent rivaliser avec Dieu. Cette compétition s'établit autour des divinités représentées par le pharaon et ce dieu que le pharaon ne veut ni connaître ni reconnaître. Cette idée est la trame principale. Dieu veut faire sortir les Hébreux d'Égypte de manière définitive. Mais dans le cadre des négociations, trois ou quatre fois, Moïse et Aaron demandent simplement à Pharaon de donner aux Hébreux une sorte de congé pour des raisons religieuses, pour faire un pèlerinage à leur Dieu. D'ailleurs très dangereux, car si on ne lui offre pas des sacrifices, il peut frapper par la famine et par l'épée. Mais cela aussi est refusé par Pharaon. Certains interprètent cette demande comme une ruse de Moïse et d'Aaron pour que le Pharaon les laisse partir. Mais si ruse il y a, ils auraient dû se tenir à cette demande et ne pas demander en même temps un départ définitif. Parce que dans d'autres passages, ils formulent leur demande de façon directe et franche, sans détour. On peut alors imaginer que coexistent dans le récit biblique deux traditions différentes. La tradition d'un exode définitif et une autre tradition attachée à cette rencontre que l'on retrouve peut-être derrière Exode 3, qui témoignerait d'un lien avec un dieu, tétragramme, siégeant sur une montagne à 3 jours de marche de l'Égypte, qui serait devenu le dieu des Hébreux. Ils parviendront finalement à lui offrir le sacrifice réclamé en Exode 18, mais après la traversée de la mer et sans avoir besoin alors de retourner en Égypte. La tradition de la sortie définitive est bien celle qui domine le livre de l'Exode. Dieu, tétragramme, réalisera cet exploit. Mais dans le livre, on peut discerner les deux traditions différentes et mêlées dans l'histoire de l'Exode. J'achèverai ici, parce que je ne peux pas raconter toute la Bible en 25 minutes, cette Bible qui peut en cacher une autre, par Thomas Romer et Frédéric Boyer, aux éditions Bayard, une incursion passionnante dans le monde biblique et dans ce monde du Proche-Orient ancien.